Cartes sur table de Camille de Sainte-Croix. Première partie. La femme de chambre ouvrit la porte du petit salon et fit pénétrer l'élégante visiteuse. Celle-ci, d'un rapide coup d'œil, en personne qui sait à la fois voir et juger, inspecta le mobilier très simple. Puis, se tournant vers la servante, « Ainsi, mon enfant, je n'ai pas à craindre d'avoir été vu pénétrant ici. » « Et me voici bien dans l'appartement que M. de Meurangis habite depuis 5 mois. Il n'occupe que ce rez-de-chaussée. Oui, madame. 3 pièces, le petit salon dans lequel nous nous trouvons et où il a l'habitude de recevoir et de travailler. Il en reçoit beaucoup. Il donne à dîner 2 ou 3 fois par semaine à quelques amis. Et il travaille. Il écrit et lit très assidûment. » Madame peut voir sur ce petit bureau des livres ouverts, des papiers manuscrits. Et quelles sont les autres pièces de son logement? À droite, c'est la chambre à coucher dont la porte-fenêtre ouvre, comme celle du petit salon, sur la terrasse du jardin. Pas d'autre issue de ce côté? Non, madame. Et à gauche? À gauche, c'est le cabinet de toilette. Et ceci? En adressant cette dernière question, la visiteuse, au bout de son ombrelle, désignait une porte à 2 battants close vis-à-vis la porte d'entrée. Ceci, c'est l'alcôve dont j'avais l'honneur de parler à madame. Elle était d'abord destinée au domestique de monsieur le baron. Mais monsieur de Meurangis n'a pas amené son valet de chambre de Paris. Je sais qu'il l'a congédié avant de venir se fixer ici. Monsieur le baron n'a en effet amené personne avec lui pour le servir. Mais madame, c'est sans doute que la propriétaire de cette maison tient pension de famille. Le service de chaque locataire se trouve donc assuré par les gens d'ici. Alors cette alcôve est libre? Personne n'y couche? Dans les premières semaines, monsieur le baron y faisait coucher le jardinier Olivier, pour avoir quelqu'un sous la main qui lui prépara ses effets, soigna sa bicyclette et lui servit le matin son premier déjeuner. Mais Olivier est en congé depuis 15 jours. Il est parti dans son pays, et l'alcôve, comme madame peut s'en assurer, reste tout à fait libre en ce moment. Bien. Mais en l'absence de ce jardinier, qui s'occupe du ménage de monsieur de Meurangis? Est-ce vous? Le plus souvent, oui, madame. Je viens passer 2 heures ici, tous les matins, en apportant le courrier. Monsieur de Meurangis ne doit pas se plaindre de l'intérim. Vous avez des yeux fort beaux, ma fille, et une taille ravissante. La petite femme de chambre rougit, mais protesta vivement. Charmante, elle était en effet toute fraîche et toute simple, avec une grâce douce et modeste, qui sentait sa province de mœurs calmes et de bon ton. « Oh, madame se trompe bien si elle croit. On est sérieux ici. Rien que des familles dans la villa. Monsieur le baron est le seul célibataire à qui l'on est loué pour la saison. Encore est-ce qu'après renseignement? Et parce que l'on s'est assuré que monsieur de Meurangis serait homme à respecter les principes d'une maison comme il faut. Vraiment? Et comment vous appelez-vous? Gracienne. Tout ce que vous me dites là est fort bien, mon enfant. » Ainsi, vous avez une si belle confiance dans le respect de monsieur de Meurangis? Soit donc. Mais il me semble que vous n'êtes pas extrêmement avare de votre confiance et que vous la prodiguez quelque peu. Est-ce que, par exemple, le fait de m'introduire aussi facilement, moi, étrangère et inconnue, dans le rez-de-chaussée de votre pensionnaire, ne ressemble pas plutôt à une imprudence? Oh, madame m'inspire tant de sympathie que l'on voit bien tout de suite à qui l'on a affaire. Assurément, jamais une autre que madame n'aurait pénétré jusqu'ici. D'ailleurs, nous avons causé avec madame. Elle a bien voulu me dire qu'elle savait à quoi je m'exposais en l'introduisant secrètement chez monsieur le baron. En effet, j'ai eu l'honneur de répondre à madame avant que nous fussions convenus de quoi que ce fût. Vous m'avez dit, j'en conviens, que si l'on s'apercevait de quelque chose, vous seriez renvoyé sur l'heure. Madame peut en être convaincue. Et moi, je vous dis... qui ne risque rien, n'a rien. Alors vous m'avez confié que vous vous ennuyez fort dans cette petite ville et que vous seriez fort aise de connaître un peu Paris et même de voyager. Madame est bien bonne de se rappeler. Et je vous ai promis que si tout se passait à mon gré, votre souhait se réaliserait. Oh, madame n'a pas besoin de me répéter sa promesse. Madame m'a déjà donné les arts qui sont bien faits pour me laisser toute assurance. Et la jolie fille fit gaiement teinter quelques pièces dans la pochette de son tablier. « Restons donc sur nos conventions, » reprit la dame en souriant. « Mais d'abord agissons, car le temps presse. Voici l'heure, je crois, où votre locataire a coutume de rentrer. » Monsieur le baron est parti ce matin dès 6 heures à bicyclette pour le Bois Royer qui est bien à 40 kilomètres d'ici. Il en sera sans doute revenu à 11 heures. Il le doit d'ailleurs, car il m'a prévenu qu'il attendait une visite avant midi de messieurs. Veuillez donc m'ouvrir cette alcôve. Sur le lit, vous poserez le porte-manteau que je vous ai remis. Vous en retirerez mon peignoir, mes mules, ma boîte de toilette. La soubrette exécutait les ordres à mesure qu'elle les recevait. Voilà qui est fait, madame. La visiteuse passa à son tour dans l'alcôve. Mais elle est très claire. Il y a une lucarne. Est-ce qu'elle ouvre sur le jardin? Non, madame, mais sur un préau qui sert de buanderie, comme madame peut voir. C'est parfait. Vous aurez soin autant que possible de vous tenir dans ce préau tant que je demeurerai en cette alcôve. Il peut se faire que j'ai besoin de vous, et je voudrais n'avoir qu'à vous faire un signe. Rien de plus facile, madame. On ne m'appellera pas à l'office avant midi et demi. J'ai justement du linge à rincer et à tordre. Le prétexte est tout trouvé pour que je reste dans la buanderie à la disposition de madame. Il n'y aura qu'à frapper doucement à la lucarne pour que je sois prévenu. C'est bien. Voici le peignoir de madame, ses petites mules, son miroir, sa boîte de toilette ouverte. Maintenant, vous m'affirmez bien que cette alcôve est uniquement celle du jardinier, et qu'en l'absence de ce domestique, monsieur de Mérangis ne l'ouvre jamais.
Oh, très certainement.
D'ailleurs, j'allais oublier de dire à madame qu'il existe un verrou dans la porte à l'intérieur, ici, sous la serrure. Madame n'aura qu'à le pousser pour être tout à fait chez elle. Si, par extraordinaire, monsieur le baron avait l'idée d'ouvrir, il s'imaginerait, en voyant la porte résister, qu'Olivier aurait fermé son alcôve à clé en partant, et il n'insisterait pas. De mieux en mieux. Maintenant, il faut vous retirer. Quand vous serez dans la buanderie, vous chanterez de façon que je sache votre présence. La visiteuse entra dans l'alcôve en tirant le battant derrière elle. Sitôt enfermée, elle poussa le verrou. Demeurée seule dans le petit salon, Gratienne tardait à s'éloigner. Elle réfléchissait à présent, et prise un peu tard de scrupules et d'inquiétudes, elle se sentait engagée dans une partie hasardeuse. Elle, une fille de tête, irréprochable de prudence, modèle de réserve et de tenue, se prêtait à cette imprévue et bizarre intrigue. Sans doute quelque gros scandale en perspective. Bon, n'aurait-elle pas de quoi se dédommager avec la forte somme promise et l'assurance d'être emmenée à Paris? Puis elle était tout à fait conquise par la si charmante inconnue. Celle-ci semblait vraiment une personne fort bien, et crâne, et vaillante et déterminée. Tout à fait grand air, assurément très intrépide et très énergique, mais gardant par-dessus tout, malgré la hardiesse et la brusquerie de certaines façons, un ton de distinction exquise. Rien d'une aventurière. Que pouvait-elle être pour le baron de Mérangis? Quelque ancienne amie délaissée et décidée à frapper un grand coup? Qu'il y eût de l'amour là-dedans, en pouvait-on douter? Et Gratienne se rappelait fort bien avoir surpris comme une appréhension jalouse dans le vif et anxieux regard dont elle avait été enveloppée et pénétrée au moment où cette belle dame, l'ayant considérée de plus près, l'avait trouvée beaucoup trop jolie pour une femme de chambre au service d'un célibataire dans une pension de famille. Voilà par exemple un soupçon mal fondé. Est-ce qu'il était homme à s'occuper d'une soubrette, le beau baron? Jeune sans doute et si joli homme, mais si maniaque et si distrait. L'avait-il seulement regardé et remarqué depuis qu'elle remplaçait Olivier? Ses livres, ses manuscrits, ses excursions, ses soirées au cercle et ses déjeuners d'amis occupaient manifestement et uniquement la vie de monsieur de Mérangis, et rien d'autre ne l'intéressait. De telles réflexions prenant un tel tour eussent sans doute mené un peu loin la songeuse Gratienne, si elle n'avait été arrêtée net par le tintement bien connu d'un grelot de bicyclette sous la fenêtre. Presque aussitôt, Maurice de Mérangis, en personne, entrait dans le salon. Il revenait de son expédition en matinal costume de sport, bas gris et culotte courte, la taille sanglée, la visière sur les sourcils. Il alla vers la cheminée, et de ses gants défaits, tapota ses mollets et ses souliers à barrettes, tout poudreux de la longue route parcourue. Maussade et fatigué, il se montrait plus absorbé que jamais, et ne s'aperçut de la présence de Gratienne qu'après un instant. « Que faites-vous là, ma fille ? » demanda-t-il, comme contrarié. Puis, sans attendre la réponse, « Personne n'est encore venu me demander. Je craignais de m'être attardé. » Prise au dépourvu par cette question directe, Gracienne ne retrouva que tout juste assez de sang-froid pour répliquer avec un aplomb médiocre et qui eût donné l'éveil à tout autre. « Personne, monsieur le baron, absolument personne. » Puis, tout rouge de l'effort fait pour mentir et cherchant une diversion, « Il y a de l'eau tiède et des serviettes dans le cabinet de toilette pour le tub de monsieur le baron. Voici également les journaux du jour sur le guéridon. Bon, je déjeunerai tard aujourd'hui. Je n'aurai pas besoin de vous jusque-là. Vous pouvez vous retirer. » Il s'était déjà rejeté dans un fauteuil. Distraitement, il déplia un des journaux qui attendait, sous leur bande, dans un plateau du guéridon. Gracienne s'était retirée. À peine fut-il seul que Maurice dut se reconnaître incapable d'y lire une seule ligne, telle était son agitation. Il froissa le journal, le rejeta sur le tapis, et se levant, parcourut son salon à grands pas, les bras croisés. Il était de ceux qui, sous l'empire d'une pensée fixe, marmonne pour eux seuls et tout haut les réflexions confusément inspirées par le tracas qui les obsède. Quelle histoire idiote! Et quand serais-je quitte? De quoi diable aussi me suis-je allé m'embarrasser? Oh, ces causettes de cercle, entre hommes, au fumoir, c'est pire que les cactages des Arsinoé en tournée chez les Célimènes. Ouais, on peut bien parler, pour s'en moquer des commérages féminins. Les plus discrets d'entre nous deviennent, en l'oisiveté de ces pauvres clubs de province, 100 fois plus potiniers que les plus endurcis portières, les plus âpres et les plus acharnés aux médisances cancanières. Aussi ne sentais-je pas que je faisais ma plus grande folie en me laissant reprendre par ma vieille clubomanie. Être venu jusqu'ici, fuyant les importunités mondaines et les boulevardises odieuses, m'être retranché dans cette retraite exquise, dans ce coin tranquille et délicieux parmi les saines et réconfortantes beautés d'une nature adorable, avoir tout fait pour trouver dans les voluptés berceuses d'une bonne solitude le charme pur d'une trêve enchantée qui fut devenue pour moi la meilleure des cures sentimentales, être resté 5 mois fidèle à ce régime de paix et d'oubli, pour tout voir s'effondrer soudain, oui, s'effondrer, s'émietter, se réduire à rien. Il se rassit, répétant machinalement, à rien, à rien. Et cela parce que je n'aurais su renoncer au vulgaire, au nul, au stupide plaisir de m'enrôler parmi la phalange d'oisifs bavards, de philistins insipides, de pontes médiocres, qui ont groupé leur élite misérable sous une étiquette fashionable, triste fashion, et dans le but prétentieux de doter leur morne province de quelque chose qui eut l'apparence d'un cercle à l'instar des capitales et des stations de saison. Parbleu, la voilà bien rompue, la trêve. La voilà bien rouverte, l'écluse aux aventures. Et Dieu sait celles qui m'attendent maintenant. Il fallait certainement que je fusse gris hier soir. Est-ce que je les connaissais seulement, ces paltoquets, et celui-là surtout, ce bel roi? Oui, sans doute, une présentation, il y a 6 semaines, quelques relations communes, mais rien de plus. Il faut dire que je l'avais remarqué, et que même... entre tous les fâcheux dont cette province pullule, celui-là m'avait déjà tout particulièrement tapé sur les nerfs. Certes, il m'horripilait, depuis notre première rencontre, ce grand belâtre brun, moustachu comme un pandour, corseté comme un albanais. Quelle rage de parler musique et confond Schumann avec Schulhoff et Grieg avec Gogol. En somme, il ne m'était qu'antipathique. Passe donc qu'il me soit venu à l'esprit de lui être désagréable. Mais franchement, il offre prise par tant de ridicule que j'aurais pu mieux choisir mon point d'attaque. La comtesse, certes. Me voilà maintenant une belle affaire sur les bras. J'aurais certainement parié gros que jamais plus dans ma vie il ne serait question de cette femme. J'avais tout fait pour chasser de mon cœur et de mon cerveau tout ce qu'elle y avait mis. Et parbleu, j'étais en droit de croire que j'avais réussi. Oui, ma foi... jusqu'à ce jour, je pouvais me vanter d'avoir tué et archi-tué son pâle souvenir. 20 fois, 100 fois. Depuis que je ne l'ai revue, j'ai lu de ses nouvelles dans les gazettes mondaines. 100 fois, j'ai pu la déchiffrer sous quelques crocades à initiales de la vie parisienne. Combien de fois encore n'ai-je pas entendu son nom prononcé par les gens d'ici, depuis que le hasard l'a fait propriétaire dans les environs? Et ces évocations n'avaient jamais rien éveillé en mes sens si profondément assoupis. Sacrebleu, quelle mouche m'a piqué hier soir! Il arrêta un moment le flux de son monologue indigné. Un combat se livrait en lui. Les sourcils froncés, il jetait un regard courroucé vers la porte. « Est-ce qu'ils vont me faire attendre maintenant? Ce sera un comble. » Puis, énervé, mais dominant son impatience, « Bah, ce qui est dit, laissons venir les événements. » À ce moment, la porte se rouvrit et Gracienne reparut, demandant « Monsieur le baron est-il visible? Il y a là deux messieurs qui demandent à lui parler. » Elle glissa deux cartes sur le plateau. Maurice lut les noms et, sans se retourner, « Faites entrer !» Gracienne, remontée vers le seuil, s'effaça pour laisser pénétrer les personnes annoncées. « Monsieur Georges Serret, monsieur le capitaine de Locher. » Le baron s'est élevé, allant au-devant de ses visiteurs, les saluant, leur désignant des sièges. Son visage avait repris tout son calme, et rien ne s'y disait des intimes agitations de tout à l'heure. Sur un signe de lui, Gracienne mit un pyrifore et des cigares dans les cases d'un guéridon, puis disparut. Les deux nouveaux venus s'étaient assis côte à côte sur un canapé. Maurice relut leurs cartes et, s'adressant à chacun d'eux, « Monsieur Georges Serret, avocat. » Georges Serret salua. « Monsieur Frédéric de Locher, capitaine au 7e dragon. » Frédéric de Locher salua. L'avocat était un gros petit homme de 37 à 40 ans, la face rasée, montrant avec affection de jolies mains aussitôt dégantées. Ses vifs petits yeux noirs de presbyte furetaient partout autour de lui et le regard curieux sautillait d'objet en objet. Le militaire, haut et large gaillard blond, plus jeune de 7 ou 8 ans, indifférent et placide, se carrait à son aise et montrait bien qu'il se reposait du souci de garder une belle apparence sur ses dons innés d'élégance et de correction. L'avocat parla le premier. « Vous vous doutez sans doute, monsieur le baron, de ce qui motive notre visite. » Maurice eut un demi-sourire. « À peu près, messieurs. » Paul Serret changea de siège et vint s'installer sur un pouf plus proche du fauteuil d'où Maurice le dévisageait. « Cela nous permettra donc d'abréger et de venir tout de suite aux faits. » En deux mots, les voici, ces faits. D'une conversation qui eut lieu hier au fumoir de notre cercle commun et à laquelle vous vous êtes trouvé mêlé ainsi qu'un de nos amis, celui-même que nous représentons ici, M. Charles de Belleroy, il résulte que celui-ci a retenu certains propos émis par vous et considérés par lui comme offensants pour une personne dont certains événements récents l'ont fait le défenseur autorisé. Sur cet exposé de longue haleine, et que l'avocat estima suffisamment précis, il y eut un court silence. Maurice de Meurangis le rompit pour répliquer avec un brin d'ironie. « Nous aurons sans doute à revenir, messieurs, sur la plupart des choses que M. Serret vient de résumer en ces deux mots de préambule. Mais en attendant, et pour que tout marche dans l'ordre, il convient que vous me déclariez ce qu'espère de moi, M. de Belleroy, votre ami. « C'est fort légitime, monsieur le baron, » intervint le capitaine de Locher, enflant ses puissantes épaules et se figeant en une attitude de condescendance. « Monsieur de Belleroy espère que, la scène à laquelle nous faisions allusion ayant été publique, vous voudrez bien vous soumettre à une rétractation publique.
Ou ?
Ou à une réparation par les armes. Allons, voilà qui est assez net, monsieur le capitaine. Mais si bien dit que ce soit, c'est peut-être un peu vite dit. Vous permettrez donc, puisque l'incident revêt un tel caractère de gravité, que je ne le prenne pas à la légère. Tout ceci demande à être traité et débattu à fond. Je vous serai donc obligé de vous reporter au début de cet entretien et de ne pas rester cette fois dans les termes un peu vagues des préliminaires. » L'avocat rentra en scène. « Nous sommes venus ici, monsieur, non point précisément pour vous porter un cartel, mais plutôt pour obtenir une explication qui doit rester courtoise et surtout pour trouver une solution bien franche à une question délicate. Notre premier devoir, puisque vous nous le rappelez, et donc, en effet, de vous fournir tous les éclaircissements qu'il vous plaira solliciter de nous. Mon principal défaut, messieurs, est d'être affligé d'une mémoire affreusement rebelle et courte. D'hier soir à ce matin, j'ai complètement oublié les divers propos que j'ai pu tenir au cercle, où d'ailleurs, si vous voulez bien vous en souvenir, la conversation très animée et très confuse a souvent varié en ces sujets. Il est donc difficile à ma perspicacité de percevoir, Parmi les choses dites et déjà effacées de ma mémoire, quelles sont celles qui ont pu atteindre plus particulièrement la susceptibilité de Monsieur de Belleroy? C'est cela même que je vous prie de spécifier. Cependant, il en est ainsi. Je me souviens d'avoir paru au cercle hier soir vers 11 heures, de n'avoir fait qu'une courte apparition dans le salon de jeu, puis d'être allé me jeter dans un fauteuil du fumoir, et là, d'avoir échangé quelques mots et quelques cigares avec d'aimables gentlemen parmi lesquels vous vous trouviez tous deux. En effet. Mais c'est tout, et mes efforts n'aboutissent, je vous le répète, à me remémorer ni de qui, ni de quoi l'on a parlé. Le capitaine de Locher se déraidit encore un peu pour esquisser un geste agacé, et se tournant vers l'avocat, « Allons, monsieur Serré, précisez, puisque monsieur de Mérangis nous y convie et que nous sommes ici pour cela. » Il faut donc avant tout insister sur ceci, reprit le premier témoin, que notre ami Belleroy est sur le point de contracter un mariage dont il est beaucoup parlé en ce moment. Il doit épouser une jeune veuve. Laquelle n'est pas une inconnue dans notre région, interrompit encore le capitaine, coupant la parole à l'avocat. Cette dame a en effet acheté l'an dernier une propriété admirable aux portes de Beauvais, le domaine des Glandiers, mais elle habite fort peu. Le mariage de Belleroy, poursuivit l'avocat, est donc chose connue de tous. Voici 3 semaines qu'il a présenté sa demande et s'est fait agréer. Les dates ne sont pas encore fixées, mais elles le seront avant 8 jours. À un moment, Maurice de Mérangis avait fait un mouvement pour parler à son tour. C'était lorsque M. de Locher avait parlé de l'acquisition faite par la jeune veuve d'une propriété sise aux portes de Beauvais. Mais il s'était promptement repris, laissant Paul Serret continuer. « Eh bien, monsieur le baron, vous demandiez de quoi l'on parlait hier au cercle. La conversation roulait précisément sur ce projet d'union. Et comme il y avait unanimité pour féliciter monsieur de Belleroy sur cette belle alliance, le nom de la jeune veuve, qui n'avait pas été prononcé, le fut soudain par l'un de nous, qui nomma madame la comtesse de Camarode. Jusqu'alors, vous vous étiez tenu à l'écart, mais à peine entendîtes-vous ce nom que vous poussâtes une exclamation et si forte que nous nous retournâmes tous vers vous. La nouvelle du mariage prochain était sans doute toute fraîche pour vous, et vous parut tout à fait bouleversé lorsque vous apprîtes ainsi qui était la personne dont Belleroy allait devenir l'époux. Bois. Or, monsieur, le plus grave, c'est que vous ne fûtes nullement maître de cet étonnement que vous le laissâtes s'exprimer d'une façon singulière et certes, de nature à froisser l'inquiète susceptibilité de notre ami. C'est-à-dire que vous vous êtes décrié, comme sous l'empire d'une émotion intime que vous n'auriez pu maîtriser. Comment ? Se marier, elle, Daria ? Et c'est tout ? Notre ami Belleroy s'est alors levé et justement piqué s'est approché de vous. Parfaitement, maintenant je me souviens fort bien qu'il vous a demandé si vous étiez à un degré quelconque apparenté à sa fiancée, et j'ai répondu « Vous n'avez voulu répondre que par un geste vague. » « C'est fort possible. » Belleroy a insisté. Il vous a demandé, et de façon pressante, si n'étant pas le proche parent de madame de Camarode, vous n'étiez pas au moins un ami intime de sa famille, et si, par exemple, vous ne l'auriez pas connu enfant. Et je me suis contenté de répondre encore par un geste vague. « Parfaitement. » C'est que la question m'aura paru pour le moins étrange. « Vous trouvez étrange, monsieur le baron, qu'un homme tel que monsieur de Belleroy se soit ému de votre attitude ? Peut-être même voyez-vous là-dedans matière à quelque plaisanterie ? Tel n'a pas été l'avis de notre ami. La mission dont il nous a chargés consiste donc à vous prier de nous dire sur quel droit vous fondez, n'étant autorisé à cela ni par une proche parenté, ni par une ancienneté de relations familières suffisamment établie, pour nommer ainsi à haute voix, et en la désignant simplement par son prénom, une personne telle que madame de Camarode est dans un lieu aussi public qu'un fumoir de cercle. » Maurice alluma le cigare qu'il s'était choisi en écoutant l'avocat. « Alors voilà, messieurs, tout le fond de cette grave affaire. Et c'est pour cela que monsieur de Belleroy vous a dérangé et vous force à me déranger à une heure où les honnêtes gens ne songent qu'à leur déjeuner. Il se peut que j'ai nommé madame de Camarode Daria. C'est en effet son prénom, mais c'est bien, je crois, la première fois qu'un aussi joli prénom
aurait été considéré comme un terme injurieux. »
Paul Serré alluma également un cigare pris au hasard dans la boîte, tandis que le capitaine de Locher s'appliquait à exprimer par le dédain de son attitude, de plus en plus rigide, le parfait ennui qu'infligeaient à son militarisme ces discussions de Pékin chicanier. L'avocat reprit.
« Monsieur de Belleroy se trouve être, j'eus déjà l'honneur de vous le faire observer, monsieur, le fiancé de madame de Camarode. C'est pourquoi il ne peut tolérer... »
Cette fois Maurice perdit patience. Il abandonna brusquement son maintien étudié de douceur ironique et s'écria « Au surplus, messieurs, finissons-en. Je connais en effet madame de Camarode de longue date. Sa famille fut jadis très attachée à la mienne et diverses alliances ont même établi une lointaine parenté. »
Paul Serré, la physionomie changée, se frottait les mains.
« Ah, bah, très bien, très bien.
Ajouterai-je que madame de Camarode fut la compagne de couvent d'une mienne sœur que j'aimais beaucoup et perdit fort jeune. Ses souvenirs ont sans doute traversé mon esprit à l'évocation du nom de la comtesse. Cela m'apparaît fort naturel. Mais d'autre part, je ne suis pas très surpris de la mauvaise humeur de monsieur de Belleroy. Je conviens que, n'ayant en somme aucun titre assez sérieux pour me permettre de désigner aussi familièrement cette dame, oui, je conviens sans peine et tout à fait entre nous, que l'esprit ombrageux d'un amoureux fiancé ait pu s'alarmer. »
Paul Serré se leva.
« Parbleu, monsieur, voilà qui va bien, et puisque vous convenez. »
Monsieur de Locher insista, troussant sa moustache.
« Oui, puisque vous reconnaissez. »
Mais monsieur de Morangis les arrêta net, les toisant.
« Halte là, capitaine. Tout beau, monsieur l'avocat.
Ce que je puis reconnaître devant les deux galantes gens que vous êtes, tous deux, certainement, n'a rien de commun. » Avec ce que je pourrais reconnaître publiquement, ainsi que prétend me l'imposer monsieur de Belleroy. Confidentiellement encore, je puis vous jurer sur mon honneur que je considère madame la comtesse de Camarode comme une personne au-dessus de toute atteinte, digne de tous les respects, digne de faire le bonheur...
Il suffit.
Oui, oui, il suffit, goya le capitaine. Maintenant,
je n'ai rien d'autre à dire. Pour la satisfaction de votre ami, sinon qu'il me répugnerait vous avoir fait venir ici pour rien.
Mais le temps de chercher et de trouver deux témoins avec lesquels je vous mettrai en rapport, cet après-midi même, au rendez-vous qu'il vous plaira leur fixer par mon entremise, et avec lesquels vous voudrez bien arranger une rencontre, selon les conditions de monsieur de Belleroy.
Une rencontre ?
Allons, messieurs, cette histoire est ridicule. Vous devez le sentir comme moi. Votre client souhaite qu'elle ait des suites.
Il eût mieux valu assurément qu'elle n'en eût pas. Mais tant pis pour nous si j'ai fourni à votre pointilleuse amie l'occasion de me provoquer.
Il y a dans tout ceci de sa faute et de la mienne. Payons donc nos fautes. »
Les deux témoins eurent un même geste de protestation.
Maurice de Meurangis, qui s'est élevé, marchait à grands pas de long à large.
« Je le comprends d'ailleurs fort bien, votre ami. Il est jeune, ardent, très épris, et peste !»
Madame de Camarode vaut la peine qu'on mette flamberge au vent son honneur.
Il veut se battre. Cela ne me déplaît pas autrement. Nous nous battrons. »
En parlant ainsi, il s'animait fort. Il y avait dans sa parole et son geste une gradation nerveuse qui trahissait une émotion intérieure et croissante. Il semblait ne parler que pour lui. Et tout à sa préoccupation intime, il n'avait point remarqué quel revirement s'était produit dans l'attitude des deux amis de monsieur de Belleroy.
Paul Serré reprit la parole.
Voyons, monsieur le baron, je vois que vous êtes mépris et que vous continuez à vous méprendre sur notre démarche. Le capitaine de Locher est ici pour attester avec moi que monsieur de Belleroy n'avait en principe l'intention de provoquer aucune rencontre. La façon dont nous nous sommes présentés à vous, et je crois l'avoir suffisamment marqué dès le début de cet entretien, ne comportait menace et défi que très conditionnellement. Monsieur de Belleroy est allé, pour sa part, cette fois déjà sur le terrain, c'est de notoriété publique. De votre côté, vous avez eu de nombreuses et très brillantes affaires d'honneur. Il ne peut donc être question entre vous de faire vos preuves. Tout se passe ici entre gens de cœur et entre gens de tact. Tout doit donc s'arranger.
S'arranger.
Et nous avons eu tout à l'heure, monsieur de Locher et moi, un vrai mouvement de joie en croyant voir que vous nous compreniez. Et que vous étiez tout disposé à nous accorder la très simple et très légitime satisfaction que nous étions venus chercher.
Que vous faut-il donc ? ce qu'il nous faut, mais tout simplement que, en galant homme que vous êtes, vous répariez d'un mot le lapsus de conversation auquel vous vous êtes laissé aller. Ce lapsus n'était rien, sans doute, presque rien, mais nous habitons la province. Tous les mots sont épluchés, commentés. La moindre parole prétend équivoque court les risques des plus fâcheuses interprétations. Vous avez été officier, vous avez garnisonné dans les petites villes, dans celle-ci même, je crois. Vous savez donc aussi bien que nous ce que valent ces foyers de médisance et de calomnie, et à quel point il faut s'y tenir sur ses gardes. Eh bien, monsieur, la situation présente ne saurait qu'être aggravée par un duel, tandis que la fâcheuse impression causée par ce que j'appelais tout à l'heure un lapsus serait infailliblement détruite par la moindre déclaration de votre part, déclaration que vous feriez en temps et en lieu opportun et dont, avec votre esprit si fin et votre parfait savoir-vivre, vous n'auriez aucune peine à trouver et à choisir les termes. Vous nous disiez tout à l'heure vous-même qu'il eût mieux valu que cette affaire n'eût pas eu lieu, et surtout qu'elle n'eût pas entraîné de conséquences. C'est tout à fait notre avis. Vous faisiez sans doute, en vous exprimant ainsi, allusion aux fâcheux résultats que produirait le moindre scandale rejaillissant sur la réputation d'une honnête femme. Eh bien, ce scandale dont un mot de vous a pu faire lever la menace, un mot de vous peut en arrêter l'éclosion. En toute conscience, en toute loyauté, arrangez-vous pour que tout soupçon soit écarté et pour que, aux yeux des plus malveillants, il devienne manifeste que vous n'êtes pas, que vous n'avez jamais été l'amant de Madame de Camarode. Ah ça, messieurs, de quelle commission vous êtes-vous chargé? Que voulez-vous que j'ajoute à ce que je vous ai dit? N'ai-je pas eu l'honneur une fois déjà de vous affirmer que je tenais Madame la Comtesse pour la femme du monde la plus honnête et la plus respectable? Voilà le premier point de la question fixée. L'autre point, c'est que venu en qualité de témoin, vous êtes nécessairement par ce fait porteur d'un cartel. Or, je n'ai jamais reçu de témoin sans me battre. Monsieur de Belleroy n'a pas sans doute la prétention que je me départe en son honneur d'une habitude dont je me suis toujours loué. Nous nous battrons, c'est mon dernier mot. Toujours ce malentendu, voyons, monsieur le baron, puisque vous voulez bien reconnaître devant nous que la future madame de Belleroy... Je ne connais pas la future madame de Belleroy, je connais madame de Camerode. Et c'est d'elle seulement qu'il peut être question ici. Soit donc que madame de Camerode est digne de toute estime, de tout respect. Pourquoi ne pas vous en tenir là? Pourquoi ne pas nous laisser prendre acte de cette simple déclaration? S'il vous répugne de susciter une occasion de la répéter publiquement, nous pourrons à la rigueur réduire ce qui a pu vous paraître une exigence trop forte et nous contenter de moins. En quatre lignes de verbalisation, nous ferons part de ceci à monsieur de Belleroy, qui s'en trouvera satisfait, et tout sera désormais oublié. Se battre après cela serait de pur enfantillage. Maurice exaspéra. Au diable, votre Belleroy! C'est lui qui l'a voulu d'abord, c'est moi qui le veux maintenant, nous nous battrons. Je vous en supplie, monsieur, réfléchissez. Vous, un ami de madame la comtesse, un ami d'enfance, vous devriez être le premier à comprendre. Je comprends ce que je peux, mais je n'admets que ce que je veux. Voilà plusieurs mois que je n'ai vu cette dame. Elle n'a jamais été ma maîtresse, ni celle de qui que je sache. Voilà qui est dit, redit pour les personnes à oreilles dures, mais que je vous prie de ne plus me faire répéter. Quant à l'issue de ce long bavardage, je m'oppose à ce que votre verbalisation en dégage autre chose que ceci, à savoir que M. de Belleroy m'ayant envoyé deux témoins, j'en ai constitué deux autres, que ces quatre personnes auront à nous mettre le plus tôt possible, M. de Belleroy et moi, en présence et sur le seul terrain qui convienne désormais. Maurice se contenait avec peine. Bras croisés, il arpentait son petit salon, à une allure accélérée, s'arrêtant de temps en temps devant l'un des témoins pour le dévisager presque nez à nez et lui jeter, par saccade, ses volontés. « Nous nous battrons, et dès demain. Votre ami a la qualité d'offenser, qu'il la garde. Mes témoins vous céderont sur toutes les questions, l'heure, le lieu, l'arme. Je ne tiens à rien, je vous abandonne tout. Dites-moi simplement où et quand je devrais vous les adresser. Après quoi plus rien ne vous retiendra ici, messieurs. Pour vous, comme pour moi, il est l'heure de déjeuner. » Paul Serret ne répondit pas. D'un geste mécontent, il signifia qu'il lâchait prise. Ce fut au capitaine de Locher qu'il appartint de terminer militairement l'entretien. « Devant votre insistance, monsieur, nous ne pouvons préjuger de la décision que prendra notre ami. Nous n'avons plus qu'à lui rendre compte de l'échec de notre essai de conciliation. Nous rapporterons sa réponse à vos témoins, avec lesquels, si cela vous convient et leur convient, nous aurons une entrevue à 3 heures cet après-midi dans le salon du cercle. Monsieur Paul Serré et moi les attendrons. Voilà qui est entendu, messieurs. Au revoir. » Non encore calmé, il les salua avec une courtoisie agacée et dont l'affectation même équivalait à un pressant congé. Messieurs de Locher et Serré, impassibles, lui rendirent son salut en se dirigeant vers la porte. Mais comme ils touchaient au seuil, Maurice courut de nouveau à eux. « Il est bien entendu, messieurs, que ma réponse ne vise que la provocation de votre ami. Quant à Madame de Camarode, je vous l'affirme, c'est l'honneur, la vertu même, c'est la femme la meilleure, la plus... » Il n'acheva pas, et se rejeta en arrière, la parole coupée, stupéfait. Les deux témoins se reculèrent avec un même mouvement de surprise. Quelque chose de vraiment inattendu venait d'avoir lieu, tandis que Maurice plaidait une dernière fois et si chaudement la cause de l'honneur de la comtesse de Camarode. On avait entendu soudain le bruit léger d'un verrou glissant dans une serrure, et les deux battants de l'alcôve s'étaient brusquement ouverts pour livrer passage à l'apparition la plus inopinée. Une jeune femme, en négligé d'appartement, vêtue d'un peignoir léger, chaussée de petites mules rouges, les cheveux défaits, souriante et dégagée, s'était avancée comme au saut du lit. Mais à peine avait-elle fait un pas dans le salon que, changeant brusquement de physionomie et marquant un effroi qui ne semblait nullement joué, elle avait vivement porté ses mains à son visage, se repliant vers l'alcôve d'un mouvement onduleux et rapide et balbutiant. « Oh, pardon, messieurs, je croyais que Maurice était seul. » Sans ajouter un mot, sans répondre à l'interrogation muette et décontenancée du baron de Meurangis, elle se retira d'un bond dans sa retraite, en referma les battants. Puis on entendit le verrou glisser à nouveau. Or, cette jeune femme, chacun des trois assistants venait de la reconnaître pour Madame la comtesse Daria de Camarode en personne. Paul Serré, revenant le premier de cet ahurissement, fit cesser le silence un peu gêné qui suivit ce coup de théâtre et s'adressant à Maurice. « Monsieur le baron, en présence de ce que nous venons de voir... » Le baron de Meurangis riposta vivement. « Au diable, monsieur, vous n'avez rien vu. Avant de vous fournir une explication, il m'en faut une autre, à moi-même, et dès que j'aurai la mienne, vous aurez la vôtre. Mais jusque-là, le devoir de tout galant homme... » L'avocat eut un sourire à peine voilé de courtoisie. « Monsieur de Locher et moi, nous avons d'excellents yeux. Moi aussi, messieurs, je possède une paire de très bons yeux, mais ils ont pu se tromper comme les vôtres. Madame la comtesse de Camarode, ici, chez moi, à mon insu, nous écoutant à travers une cloison, Madame de Camarode à 7 heures, en toilette de chambre, dans une alcôve où couche mon domestique, dans un appartement dont elle n'avait jamais franchi le seuil. Nous voulons bien vous croire, monsieur, reprit l'avocat, gardant avec peine son sérieux. Cependant, les faits sont les faits. Deux savants philosophes, Malebranche, Berkeley, Spinoza, ont écrit des traités admirables sur les erreurs des sens. Malheureusement, leurs opinions n'ont compté pour la postérité que comme d'ingénieux et vains paradoxes. Notre devoir à nous est de nous en tenir à l'opinion du commun et de nous fier au témoignage des sens. Donc, ce que nous avons vu, de nos yeux vus, reste pour nous un fait acquis comme le serait tout autre phénomène que nous aurions perçu par l'ouïe, l'odorat ou le toucher, facteurs irréfutables de nos perceptions. Libre à chacun de prêter foi, à part soi, aux révélations, aux évocations et aux apparitions surnaturelles. Je suis des premiers, lorsque je rencontre dans les soirées ou sur les scènes de théâtre, à m'intéresser aux exercices des thaumaturges et des spirites, mais leurs pratiques n'ont rien à voir dans ce qui nous occupe, et nous aurons l'honneur, monsieur de Locher et moi, de verbaliser selon les réalités vivantes qui viennent de nous surprendre, de nous charmer et en même temps de nous renseigner. Maurice fit un mouvement, le capitaine s'interposa. « Monsieur, la courte scène à laquelle nous venons d'assister n'aura pas, soyez-en assuré, les suites compromettantes que vous pourriez redouter. Croyez bien que vous avez affaire à des hommes d'honneur, qui aimeraient mieux périr que ternir la réputation d'une femme par un rapport indiscret et méchant. Tout ceci doit rester et restera entre vous et nous, et monsieur de Belleroy, car vous admettrez bien que dans la circonstance, lui, du moins, doit être informé. » Maurice frappait du pied et serrait les poings. « Voyons, puisque je vous dis que tout cela est insensé, que je n'y comprends rien, c'est stupide, c'est une hallucination. » Mais déjà, les deux témoins battaient définitivement en retraite. Et comme Maurice se précipitait vers eux en grondant, « Tant pis pour vous si vous refusez de me croire. au cas où, sur vos calomnies, M. de Belleroy se déroberait, je saurais bien vous trouver l'un ou l'autre pour vous rendre responsable. » Ils avaient déjà disparu. Alors, se tournant vers l'alcôve, Maurice s'y rua avec un redoublement de courroux. Il commanda. « Nous sommes seuls. Ouvrez-moi, madame, que je sache si c'est vous, le diable, qui se joue de moi, ici. » Ne recevant pas de réponse, il courut pour enfoncer les battants si l'on s'obstinait à garder le verrou de l'intérieur tiré. Mais les battants cédèrent. On avait sans doute ouvert la targette, car l'alcôve s'ouvrit toute grande sous la poussée de Maurice. Seulement le nid était vide. Et sur le lit, ni dessous, ni derrière le rideau, ni dans les angles, plus la moindre trace ne révélait qu'une femme eût séjourné là.